au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, nous sommes de retour et on prend vos appels dans un instant. Mais avant, on parle avec Philippe et on continue sur Ferrari, Philippe.
Ben oui, parce que dans ce deuxième bloc qu'on consacre à Ferrari aujourd'hui, là, à ce moment-là, je vous propose un tour d'horizon des modèles les plus marquants des 70 ans d'existence de Ferrari. Ben en même temps, ben, je vous invite à regarder, si vous le pouvez, évidemment, là, les photos des modèles dont je vais vous parler en allant sur mon site, philippelagu.com, Philippe Lagu en un mot, parce que là, tout est là, on a mis toutes les photos, tout est là, exprès pour vous.
Je m'amuse là-dedans. Là.
Hein?
Je suis là, sur philippelagu.com, je suis en train de regarder ces modèles-là. Je les aime pas, il y a des modèles, par exemple.
T'es pas sûr, hein?
Oui, c'est ça.
Ben, on va regarder ça tout de suite. On commence avec la 815. Je l'ai mentionné dans le premier bloc, je pense. En tout cas, je le mentionne dans mes textes, ça, c'est sûr. Là. La première voiture qui a été construite par Enzo Ferrari ne portait pas son nom. Et ça, c'était à cause de la clause de non-concurrence là, qui était liée à son départ d'Alfa Romeo. D'ailleurs, la 815, on la surnomme l'avant-première Ferrari.
Okay.
Et elle s'appelle AAC 815, AAC pour Auto Avio Costruzione, qui était le nom de la première compagnie d'Enzo Ferrari tout de suite après son départ d'Alfa Romeo. Et 815 parce que c'est un moteur à 8 cylindres d'une cylindrée de 1,5 litres, hein? C'est petit, c'est deux blocs 4 cylindres de Fiat en fait qui avaient été mis bout à bout. Et c'était un moteur qui avait une puissance de 80 chevaux. Là. De toute façon, la Seconde Guerre mondiale va mettre une fin abrupte au projet 815. Il y a d'ailleurs seulement deux exemplaires qui ont été construits et il en reste un seul. Il est précieusement conservé au musée Ferrari à Maranello et j'ai eu l'immense privilège de l'avoir en vrai. Même s'il y en a qui disent que c'est une réplique qui est exposée, c'est peut-être le cas, mais enfin, au moins je l'aurais vu à Maranello, je l'aurais vu dans son habitat naturel. Et là, aujourd'hui, quand on parle de V12, hein, on pense automatiquement à Ferrari. Et c'est vraiment la marque qui a donné ses lettres de noblesse à ce type de moteur, ou l'inverse, c'est selon. Là. Et ça, c'est parce que Enzo Ferrari a été ébahi par le V12 d'une Packard américaine qui participait aux 500 000 d'Indianapolis. Alors, la première voiture à porter son nom doit donc avoir un V12. C'est son souhait, puis on sait que les souhaits d'Enzo Ferrari, ce sont des exigences. Alors, le V12 de la première Ferrari a une petite cylindrée, encore une fois, seulement 1,5 litres, pour une généreuse puissance de 72 chevaux. Et comme on le sait, elle va rapidement gagner sa première course dès sa deuxième sortie, le 25 mai 1947. Et comme la 815 qui l'a précédée, la 125 S est une voiture de course de type barquette. On appelle ça une barquetta en italien. Et là, Daniel, je te pose une question. T'es-tu un amateur du groupe Rush?
Rush? Ben oui, je les connais.
Ben,
écoute, je connais pas la discographie, là, mais je connais Rush.
Écoute ça, j'ai même un extrait musical pour toi. Et ça, c'est une pièce qui s'appelle Red Barchetta. Alors, hein, le mot le dit, c'est vrai. Puis si vous regardez la vidéo originale, vous pouvez la voir dans le vidéo de la chanson Red Barchetta du groupe Rush. Et celle que vous pouvez voir, c'est la 166 MM, qui est justement celle dont je m'apprêtais à vous parler. La 166 qui s'appelle MM comme dans Mille Miglia. Mille Miglia, ça veut dire mille. C'était une espèce d'épreuve marathon qui se déroulait sur des courses de campagne. Essaye d'imaginer un peu là, un tour de la Gaspésie puis du Bas-Saint-Laurent avec des autos de course, le pied dans le fond. C'était vraiment démentiel, le Mille Miglia, mais écoute, il y a eu des morts, il y a eu des drames, puis à un moment donné, ils ont décidé d'abolir l'épreuve, là. Mais pour Enzo Ferrari, c'était l'épreuve ultime en course automobile. Et il a d'ailleurs gagné les Mille Miglia à plusieurs reprises avec ses voitures. Mais à l'échelle mondiale, par contre, à l'époque, il n'y avait rien pour égaler le prestige d'une victoire aux 24 heures du Mans. C'est encore très prestigieux aujourd'hui. Et là, c'est le pilote Luigi Chinetti qui a déjà remporté l'épreuve deux fois, qui va convaincre Enzo Ferrari d'y participer avec la 166. La 166, c'est une version améliorée de la 125 avec un V12 qui passe à 2 litres, 130 chevaux. Fait que là, on dépasse le cap des 100 chevaux, là. Et là, ben, le reste appartient, comme on dit, à l'histoire. Hein. Ferrari gagne à sa première participation aux 24 heures du Mans. Luigi Chinetti devient le premier triple vainqueur des 24 heures du Mans. Puis, il faut le dire, Daniel, là, c'est une victoire qui a quelque chose aussi d'héroïque parce que le copilote de Chinetti est malade pendant la course. Puis, c'est Chinetti qui va conduire pendant 23 des 24 heures. Là, c'est une course, là. C'est pas de la promenade, là. Ne l'oublions pas.
Faut être résistant.
Oui, un peu, hein?
Mais c'est physique, là.
Ferrari va le récompenser en faisant de lui son importateur officiel aux États-Unis dès 1950. Chinetti, d'ailleurs, va jouer un rôle important dans l'histoire de Ferrari. On va même y revenir. Ensuite, avec la victoire aux 24 heures du Mans, ben là, Enzo Ferrari, qui a quand même un certain sens du marketing aussi, là, il perd pas de temps. 4 mois plus tard, il va présenter une version routière de la 166 au Salon de Paris. Question de profiter du momentum, hein, de la victoire, puis de monnayer aussi son premier succès international en course automobile. À partir de là, ben, il y a plusieurs carrossiers italiens comme Ghia, Vignale, Farina qui vont habiller la 166 et les modèles qui vont en découler. Mais c'est Carrozzeria Touring qui revendique la paternité là, du modèle qui était présenté à Paris. La première de toutes. Le châssis et le moteur V12 viennent directement de la voiture de course et elle a été construite à seulement 37 exemplaires. Et là, ensuite, on arrive avec les fameuses 250, parce que c'est avec cette glorieuse série là, des modèles 250 que Ferrari passe aux choses sérieuses et devient un constructeur automobile là, à part entière. Alors, c'est donc une lignée qui est très importante, je dirais même charnière dans l'histoire de Ferrari, d'autant plus que Ferrari se construit en parallèle là, un formidable palmarès en compétition avec la 250. Les déclinaisons, d'ailleurs, sont nombreuses, hein, autant pour les voitures de course que pour les routières. Je vous en fais la nomenclature là, dans mes textes sur mon site. Et à partir des années 50, Daniel, là, le gratin de la planète débarque dans les rues du petit village de Maranello. Là, il y a des têtes couronnées, il y a des artistes, il y a des hommes politiques. Tout le monde veut une Ferrari.
OK.
Et là, ben, de la 250 va naître la 250 GT California. Alors, c'est une des nombreuses et une des plus célèbres déclinaisons de la 250 et elle doit son existence à l'insistance d'un importateur américain de Ferrari, qui est le fameux Luigi Chinetti. Et Chinetti, lui, voyait le potentiel commercial d'une version décapotable de la 250 GT. Alors, la California utilise le châssis des 250 GT de compétition, leur moteur V12 de 3 litres aussi, mais la puissance est ramenée à 240 chevaux. Mais quand même, 240 chevaux dans les années 50, là, pour une voiture qui n'est pas très lourde en plus, là, c'est quand même assez exceptionnel. La California, qui a eu plusieurs propriétaires célèbres qui font grimper sa valeur dans les ventes aux enchères. Hein. On peut mentionner celle de l'acteur américain James Coburn, qui a été vendu pour la coquette somme de $10,894,000 en 2008. Et plus récemment, celle qui a déjà appartenu à Alain Delon, qui s'est vendue à plus de $18 millions en 2015, même, puis ça, écoute ça, Daniel, même si elle était dans un état de décrépitude. Parce que, oui, la voiture avait été abandonnée pendant des années dans un hangar par un collectionneur français. Elle était sous une pile de vieux journaux. On peut le voir sur Internet et ça s'est vendu $18 millions. Ça n'a aucun sens. Puis la California, je sais pas, as-tu déjà vu, toi, Daniel, Ferris Bueller's Day Off?
Ben oui.
Célèbre film. Alors là, c'est une California qu'on voit là-dedans. Elle a été rendue célèbre par ce film-là.
Celle qui a traversé la fenêtre, j'imagine que ce n'était pas une d'origine.
Je pense que tu as raison.
En tout cas, je l'espère parce qu'il y avait du budget sur ce film-là.
Effectivement. Mais bon, on parle de 250. Le Saint Graal des Ferrari de collection. Puis même le Saint Graal, pas juste des Ferrari, des collectionneurs de Ferrari, mais des collectionneurs tout court, là, toutes marques confondues, c'est la 250 GTO. Parce que à ce jour, là, au moment où on se parle, elle demeure la voiture la plus chère vendue lors d'un encan, 38 millions US. Ouais, ça, c'était en mai 2012, 38 millions de dollars. Mais il y a d'autres sources qui disent qu'il y a un collectionneur du Connecticut qui aurait vendu la sienne l'année d'après, donc en 2013, pour un peu plus de 52 millions de dollars. Alors, peu importe, tu sais, ça donne une idée là, des prix stratosphériques là, que peut atteindre une GTO que, vendue aux enchères. Puis là, je te précise, Daniel, qu'à l'origine, c'est une voiture qui coûtait 18 000 $ Là, je te mets au défi de trouver un meilleur placement. Là.
Il n'y en a pas.
Hein? C'est
incroyable.
C'est du solide, ça. Il y a seulement 39 exemplaires qui ont été construits. Ils existent toujours. Puis parmi les propriétaires célèbres, il y a le Montréalais Lawrence Stroll, qui est le père du pilote Lance Stroll. Lawrence Stroll, qui a une collection de Ferrari absolument incroyable. Oui. Hein? Lawrence Stroll aussi, il faut le dire, qui est le propriétaire du concessionnaire Ferrari à Montréal et qui est le propriétaire du circuit du Mont-Tremblant, là, où il fait rouler justement ses Ferrari de collection. Il y a aussi Ralph Lauren, qui a une 250 GTO. Il y a aussi autre client célèbre, le batteur du groupe Pink Floyd, Nick Mason, qui a lui aussi une très, très belle collection. Et comme pour beaucoup de Ferrari, ben, les prix ont explosé là, après la mort d'Enzo Ferrari en 1988. La 250 GTO est considérée par de nombreux spécialistes là, de l'automobile, là, de nombreux experts, comme une des meilleures sportives de tous les temps, sinon la meilleure. Et évidemment, elle possède un ingrédient essentiel pour une Ferrari de collection, un V12. V12 de 3 litres, le fameux V12 Colombo, du nom de son concepteur, qui avait déjà à l'époque une puissance de 300 chevaux, ce qui, encore une fois, était assez considérable.
Assez exceptionnel. Tu vas devoir me parler des autres rapidement, parce que j'en vois de très belles. Là.
Oui, on va faire un survol, là, parce qu'on ne peut pas toutes les décrire, mais à la glorieuse lignée des 250 va succéder la 275 GTB. Ça, je peux d'ailleurs te dire, parce que je sais qu'ils nous écoutent, que c'est la préférée de notre collègue Marc Lachapelle. Hein?
Okay.
Très, très belle voiture qui était aussi la riposte d'Enzo Ferrari à la Jaguar XKE, qu'il avait lui-même qualifiée de plus belle voiture jamais construite lorsqu'il l'avait vue pour la première fois. Hein? Fait qu'il avait donc placé la barre très, très haute pour sa prochaine création, la 275 GTB, qui a été présentée, elle aussi, au Salon de Paris en 1964 pour la première fois. Ferrari importante parce que c'est la première qui adopte une suspension à quatre roues indépendantes, une boîte pont, c'est-à-dire une boîte de vitesse à 5 rapports qui est jumelée au pont arrière pour permettre une meilleure répartition du poids. V12, évidemment, qui est au menu. Et on a aussi, parmi les modèles importants, la Dino. Hein, la Dino, qui est la seule Ferrari qui ne porte pas l'emblème du cheval cabré, mais qui est néanmoins considérée comme une véritable Ferrari, comme en témoigne d'ailleurs sa valeur auprès des collectionneurs. Enzo Ferrari voulait rendre hommage à son fils disparu en créant une gamme qui porte son nom, mais il voulait aussi marquer une distinction nette entre cette petite sportive à moteur V6 et les vrais Ferrari qui étaient motorisés par des V12. La Dino est d'ailleurs un point important dans l'histoire de Ferrari parce qu'elle inaugure la prestigieuse série des berlinettes à moteur central. Puis là, ben après ça, vont suivre la Daytona, hein, qui est une Ferrari également célèbre. La Daytona qui, à l'époque, est l'adversaire avoué, déclaré de la Lamborghini Miura parce qu'on sait qu'il y a une très forte rivalité entre les deux constructeurs. Après la Daytona, on va avoir la 365 GTB4, la BB, la Berlinetta Boxer, qui s'appelle comme ça parce qu'elle a un 12 cylindres à plat de type Boxer, comme les moteurs de Subaru et les moteurs de Porsche. Et la Dino aussi va être un petit peu l'ancêtre des fameuses Ferrari 308, 328, des Ferrari qu'on connaît bien grâce à Magnum P.I., et qui avait des V8, par contre. Là, c'était plus le V6 Dino, c'était des V8. Et Ferrari, qui a connu un bon succès, la série des 308, 328 a été produite longtemps et ça a été un succès commercial. Il y a eu ensuite la Testarossa, qui a été, hein, faut le dire, Daniel, le poster car d'une génération. Là. Dans sa chambre, on avait soit une Testarossa sur le mur ou une Contac. C'était d'ailleurs l'adversaire déclaré de la Contac. Et la même année qu'on va lancer la Testarossa, on va aussi lancer la 288 GTO. Ça, c'est en 1984. Puis on peut dire que c'est probablement la dernière grande cuvée de Ferrari avant le décès de son fondateur en 1988. C'est une année qui marque le retour de deux appellations mythiques. Testarossa, qui était le nom d'une voiture d'une Ferrari de course des années 50, et GTO, de la fameuse GTO dont on a parlé tantôt. Et la 288 GTO, pardon, va inaugurer le créneau des super voitures, hein, ce qu'on appelle les supercars, là, des sportives d'exception dont les prix sont directement proportionnels aux performances, c'est-à-dire astronomiques, et qui deviennent des objets de collection dès leur naissance. La F40 s'en est une, et ça, c'est important de le préciser, le 12 juillet 1987, Ferrari célèbre ses 40 ans, d'où le nom F40, en dévoilant cette spectaculaire voiture, qui va être la dernière à être dévoilée en présence du Commendatore. On aura ensuite la F50, la Enzo. Et celle d'aujourd'hui, la Ferrari, qui s'appelle vraiment comme ça, en un mot, là, Ferrari, la Ferrari. Et la Ferrari, je termine avec ça, on n'est plus dans l'univers des super voitures, là, on est dans l'univers des hyper voitures, les hypercars. Parce que là le prix de détail, là, on est rendu dans les 7 chiffres, là.
Et c'est une voiture, je pense que c'est la voiture qui va continuer de prendre énormément de valeur. Et dans les prochaines années,
Ferrari
va être là, dans 20, 25, 30, 30 ans, des voitures à avoir et à collectionner. Merci beaucoup, Philippe.
Ben, c'est déjà une voiture à avoir. Il y a déjà de la spéculation. Ah oui. Alors, c'est déjà payant d'avoir une LaFerrari, mais pour en avoir une, il faut être membre déjà d'un club très sélect. Il faut avoir déjà acheté un certain nombre de Ferrari et faire partie de ce qu'on appelle Ferrari Clienti. Donc, il y a des clients de Ferrari qui n'ont même pas le droit d'en acheter une. Alors, c'est le club sélect des clubs sélects.
Merci, Philippe.
Ben, ça a été un plaisir.
Alors, voilà, on s'arrête. Et au retour, on parle entre autres de la Hyundai Accent. Restez là.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Auto 360 avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco.
Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360, les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard.
Oui, juste avant de vous parler, entre autres, de la Hyundai Accent, je vous donne les numéros pour nous parler. Donc, pour les gens de Montréal, 514-790-9850, Québec 418-670-9330 ou encore ailleurs, 1-866-790-9850, Auto 360 à cogecomedia.com. Et j'ai une question via Auto 360. Marc, la Hyundai Accent, tu es allé faire l'essai de cette petite voiture-là. Ici, je me fie à mon essai de la Rio, la toute nouvelle Kia Rio 2018. Ça risque d'être prometteur. Est-ce que tu as vu quelque chose d'intéressant avec la nouvelle Accent?
Totalement. C'est une voiture qu'on a bien réussi. On s'est basé pas mal sur ce qu'on avait fait avec l'Elantra, la fameuse superstructure avec de l'acier de différentes densités. C'est donc beaucoup plus rigide, beaucoup plus agréable en conduite, plus spacieux que ce à quoi je m'attendais. Disons que ça fait quelques années que j'ai perdu ma taille de jeune fille et que le gars qui m'accompagnait était pas nécessairement moins imposant que moi. Et tous les deux dans la voiture, on a eu de l'espace en masse, sérieusement. Donc, on s'est jamais heurté les épaules. C'est un petit véhicule, 1,6 litres, 4 cylindres, 130 chevaux. C'est pas évidemment particulièrement performant, mais c'est amplement suffisant pour les besoins de la voiture. Beaucoup d'équipements comme Hyundai, ce à quoi Hyundai nous a habitués. Et la raison pour laquelle on le fait au Québec, et ça m'a beaucoup surpris, 45% des Hyundai Accent sont vendus au Québec, dont 30% dans la ville de Montréal même. Ah ouais. C'est vraiment là, c'est une auto qui est faite pour nous. Évidemment, celle que nous, on a essayé, c'était la version berline qui arrive au mois de janvier 2018. Il y aura à compter du mois d'avril une version 5 portes. Et elle, ben écoute, c'est celle-là qui marche chez nous. 65% des ventes sont faites avec la version 5 portes. Et bien sûr, bon, là, on a différentes versions aussi, là, allant de la L manuelle avec les fenêtres manuelles jusqu'à la GLS qui est la plus équipée avec un système multimédia qui est nettement plus efficace. Bref, dans l'ensemble, c'est une refonte qui est vraiment réussie, un peu à l'image de ce qu'on fait avec la Elantra. En termes de look, on dirait d'ailleurs une petite Elantra. Alors honnêtement, c'est très bien. Le seul bémol, la faiblesse que tout le monde se plaignait, c'était la consommation d'essence qui était trop élevée. On dit qu'on l'a améliorée de 7%. Honnêtement, j'ai pas été capable de faire mieux que 7,3 litres au 100. C'est beaucoup pour une voiture de cette taille-là et mes collègues ont fait la même chose.
Si on parle au niveau de la sécurité, parce que avec la Rio, entre autres, avertisseur de changement de voie, tu sais, c'est des éléments qu'on ne retrouve pas dans les sous-compacts de cette taille-là. Est-ce qu'on a incorporé aussi cette sécurité-là dans le véhicule,
oui,
mais... freinage automatique et tout?
Ouais, mais pas tous les éléments et uniquement sur la version GLS qui est la version la plus haut de gamme. Les autres ne l'ont même pas en option. Comme la GLS arrive avec des roues de 17 pouces, c'est celle qu'on essayait. Évidemment, ça crée une tenue de route qui est intéressante, mais les autres versions arrivent avec du 15 pouces. Donc, tu sais, il y a un paquet d'options comme celle-là qui sont disponibles uniquement sur la version haut de gamme, dont on ne connaît toujours pas le prix d'ailleurs. Le prix sera annoncé seulement en janvier au moment de l'arrivée du véhicule.
Parfait. Alors, juste avant la pause, on va prendre Connor qui est en ligne. Conrad, excusez.
Oui.
Allez, Conrad, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, j'aimerais savoir laquelle des deux voitures, des SUV, là, entre le CR-V et le RAV4, meilleur confort?
Le confort, ça va être à peu près équivalent. Je pense qu'on sent légèrement plus d'espace un peu dans le RAV4, mais est-ce que vous c'est acheté pour longtemps, pour faire que de la ville? Est-ce que vous faites du remorquage avec le véhicule?
Non, le seul remorquage, c'est une remorque, mais c'est occasionnel. C'est pas tout le temps.
C'est pas tout le temps, mais c'est occasionnel. Oui. C'est pas recommandé vraiment avec le CR-V, la transmission en variation continue. C'est deux excellents véhicules, là, c'est deux premiers de classe. Vous allez directement là dans les deux premiers, c'est impossible de vous tromper avec les deux véhicules. Par contre, si vous pensez charger des fois assez lourd dans la remorque, je pense que le RAV4 va être mieux adapté pour vous. Sa conception moteur transmission va vous rendre davantage de service. Le CR-V, ses sièges, c'est superbe la façon dont il est aménagé. Son petit moteur est économique. Je l'aime bien aussi en conduite. Il est un peu plus stable sur la route et surtout, je dirais pas sportif parce que ça s'adapte pas vraiment. Là, Marc, c'est pas sportif,
non,
mais
pas
au
tout.
Moins tu sens peut-être un petit peu plus la chaussée avec le CR-V.
Effectivement. En fait, la seule qualité du RAV4 par rapport au CR-V, c'est sa capacité de remorquage. Moi, j'avoue que j'aime mieux la conduite du CR-V. J'aime mieux la façon dont il est fait à l'intérieur aussi. Je trouve que les commandes sont plus faciles à consulter sur le CR-V. Honnêtement, moi, j'opterais pour le CR-V. Mais comme vous dites, si vous remarquez, le CR-V, c'est zéro. C'est totalement interdit. Alors, vous avez comme pas beaucoup de choix là-dessus.
Merci c'est beaucoup. Bon. Alors, Michel est en ligne. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Bonjour. À vous?
Oui, je vous en prie, j'appelle parce que là, j'ai un doute entre une BMW X3 et une Acura modèle 2.3 litres. Donc, je ne sais pas laquelle choisir au niveau de la fiabilité.
Vous m'avez dit Acura, je n'ai pas compris votre premier modèle, je suis désolé.
Acura modèle 2.3 RBX.
Oui.
Et donc, c'est le BMW X3.
Oui.
Okay. Bien, moi, j'y vais avec... si vous pouvez vous permettre un X3, sport utilitaire, traction intégrale, pour nous ici, avec nos conditions, évidemment, je pense que c'est un véhicule qui pourrait vous rendre de précieux services.
Sauf qu'en matière de fiabilité, le Acura, si c'est uniquement la
coût
fiabilité qui vous préoccupe,
fiabilité.
Coût d'entretien, l'Acura va être plus avantageux, va coûter moins cher. Si cependant vous regardez le plaisir de conduite, ben là, allez-y comme Daniel vous le dit, moi j'aurais un faible pour le X3 aussi.
Merci beaucoup d'avoir appelé. Alors Luc est en ligne. Bonjour Luc.
Bonjour.
Bonjour.
Moi j'hésite entre le Escape et le nouveau terrain là, de GM, le 2 litres turbo.
Et l'Escape, c'est le 2 litres turbo également?
Oui, c'est ça. Lequel? T'as pas tracté un peu aussi, là?
Okay,
GM, c'est un nouveau modèle.
GM, c'est un nouveau modèle, mais c'est de la mécanique pas mal connue. J'aurais vraiment pas peur de ce véhicule-là. Il m'a impressionné. Et vraiment, là, j'ai tracté avec ce véhicule. J'avais une remorque à l'arrière, une genre de petit Airstream. Là. Il avait mis une nouvelle Airstream courte, mais version très courte. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce modèle de roulotte-là. Et j'ai tracté avec ce véhicule-là le terrain, le nouveau terrain. Et j'ai vraiment aimé la motorisation, de la façon que la transmission s'est comportée. Suspension peut-être un petit peu molle, mais rien de majeur. Alors, autant au niveau du freinage, de l'accélération, J'ai aimé tracter avec ce véhicule-là et il est directement dans la même mire que l'Escape. Je pense qu'on a fabriqué ce véhicule-là directement pour concurrencer l'Escape 2 litres. Et dans les performances, dans le rendement, c'est deux véhicules qui se ressemblent énormément. Alors moi, j'aurais pas peur des... Et même, je le mets à peu près au pied d'égalité de l'Escape. Je sais que l'Escape, est, au niveau des coûts d'entretien, il a gagné, je pense, là, le véhicule qui coûte le moins cher à entretenir dans cette catégorie-là. Alors, c'est deux véhicules très, très près un de l'autre. Puis je me dirais, là, allez l'essayer. Certaines personnes, vous savez, les boutons transmission qui sont rendus chez GM, là, certaines personnes, ça peut vous agacer. Donc, vous allez voir si vous aimez mieux un modèle ou l'autre, mais c'est deux très, très près.
L'économie, c'est pas mal pareil ou...
Oui, les deux sont à peu près similaires. Peut-être le GM est un peu plus économique, je vous dirais. Dans la façon dont le moteur est configuré, que la transmission fonctionne, il est un petit peu plus économique que l'Escape, mais c'est pas aussi significatif comme différence.
C'est le même moteur que le Cadillac ATS?
C'est le même moteur. Effectivement.
Le moteur
serait fiable. Oui, le moteur a été prouvé. Moi, j'ai pas de problème niveau moteur-transmission. Autant chez Ford qui a fait ses preuves à venir jusqu'à maintenant que du côté du terrain. Alors, deux véhicules très, très près. Allez voir lequel vous aimez le mieux. Vous trouvez le plus cute. Et là, ils vont vous faire aussi le même prix parce que si je regarde au niveau des équipements, ils arrivent à peu près nez à nez également. Alors, effectivement, on a deux concurrents. On s'arrête là-dessus puis on vous revient. Restez avec nous.
Au Cogeco, vous écoutez Auto 360 avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. L'invité de la semaine.
Nous voilà de retour à Auto 360 et j'ai à ma compagnie M. Mario Vaillancourt de la Société de l'assurance auto du Québec. Bienvenue à Auto 360.
Bonjour Daniel, ça va bien?
Ça va très bien Mario. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'extrêmement important. On sait qu'il y a eu une nouvelle concernant les jeunes et leur aptitude au volant, je dirais plutôt la conduite qui est souvent fatale par leur témérité, oui. Qu'est-ce que vous voyez, vous, à la Société de l'assurance auto?
Bien, c'est sûr que nous, les données officielles vont être disponibles comme elles le sont à chaque année au printemps avec le bilan routier. Ce qu'on voit chez les jeunes, on voit deux choses. On voit effectivement qu'ils sont encore surreprésentés dans les accidents avec dommages corporels. Là. Ils représentent à peu près 10% des détenteurs de permis, mais sont impliqués dans à peu près 20%, 1 sur 5 des accidents avec dommages corporels. Mais cela dit, je pense qu'il faut quand même préciser que depuis bon nombre d'années, il y a amélioration quand même chez les jeunes conducteurs, même que dans le dernier bilan routier, ce sont chez les jeunes qui avaient eu la meilleure amélioration parce que il y a quelques années, 5, 6, 7 ans, on était plus autour de 25% des accidents avec dommages corporels. Mais en même temps, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, souvent ce qui arrive là, pour les jeunes conducteurs, ben premièrement, il y en a beaucoup qui arrivent à chaque année, hein, des nouveaux jeunes, on parle de plusieurs dizaines de milliers, et on parle de la témérité et du manque d'expérience, bien souvent.
C'est ça qui arrive avec les jeunes. Souvent, vos campagnes ciblent directement les jeunes. Mario, c'est un créneau qu'on ne doit pas abandonner. Il faut continuer de sensibiliser cette tranche de la population.
Absolument. Et dans nos campagnes, dans nos différentes campagnes, on en a qui visent directement les jeunes conducteurs. On n'a qu'à penser, par exemple, à notre campagne drogue de l'an dernier. On a également visé les jeunes au niveau des textos. Également au niveau de l'alcool. Alors, il y a vraiment des campagnes qui leur sont dédiées spécifiquement et pas juste là dans des messages radio ou télé, mais on est aussi présent beaucoup au niveau des médias sociaux. Et je pense que c'est une bonne façon de les rejoindre.
Absolument, parce que évidemment, faut pas abandonner. Je sais que zéro accident ou zéro incident dans cette tranche d'âge, c'est absolument impossible historiquement parlant. On sait que ils ont toujours été surreprésentés, comme vous l'avez dit, mais faut pas abandonner ce créneau-là. Et j'imagine qu'à la société, vous allez continuer à innover dans ces campagnes. Et à chaque fois, je vois que souvent vous êtes percutant, souvent vous y allez avec la douceur. Donc, je vois que vous essayez de trouver différentes avenues pour essayer de toucher cette tranche de la population, mais de voir que là, présentement, les jeunes sont en augmentation, les accidents mortels sont en augmentation, ça, je trouve ça très triste.
Mais comme je dis, nous, nos chiffres, on va les avoir officiellement plus tard, mais c'est sûr que C'est l'occasion, on le fait ensemble, c'est l'occasion de ramener des principaux messages de sensibilisation, parce que quand on parle, par exemple, de différents comportements, là, si on parle de la vitesse, par exemple, chez les jeunes, là, on dit qu'elle est en cause dans à peu près 58% des accidents mortels entre 2012 et 2016 chez les jeunes conducteurs. Ouais. Alors, c'est un exemple là, de comportement peut-être sur lesquels il faut vraiment agir avec les jeunes conducteurs. Et moi, je dis souvent que pour toutes les problématiques, que ce soit l'alcool ou la fatigue, vitesse. La vitesse, je pense que nous, comme parents, comme amis, on a un rôle à jouer. Là. On doit être aussi des modèles à ce niveau-là.
Absolument. Il y a d'autres choses que tu veux me parler, c'est basketball. C'est quoi, Mario? Tu veux me parler de sport?
Ben oui, vous l'avez vu, hein, j'imagine la plupart des gens l'ont vu. On a lancé ça en fin de semaine dernière. Justement, ça s'adresse, je pense, beaucoup aux jeunes. Mm-hmm. C'est une vidéo qu'on a produit avec l'équipe, le club de basketball du Rouge et Or, où on voit les jeunes qui simulent un match, qui tentent de jouer en textant. Et évidemment, on voit que ça marche pas. Hein. C'est très visible, alors il arrive toutes sortes de choses, et à la fin du vidéo, ce qu'on voit, c'est, on dit, c'est insensé de jouer en textant, alors imaginez sur la route. Et je pense que c'est une belle façon, ça aussi, de rejoindre les gens d'une façon différente. On vise les jeunes sportifs, leurs familles, et on croit que ça a beaucoup d'impact, parce que, oui, on s'est vu lors des matchs du Rouge et Or, basketball, mais en même temps, tout le monde, hein, beaucoup de monde qui partage ça sur les réseaux sociaux, et ça fait beaucoup de petits, comme on dit.
Absolument. Et il y a d'autres campagnes à venir aussi, Mario.
Oui, écoutez, on va lancer très prochainement, d'ici peu, là, la semaine prochaine, on lance une campagne alcool à ce moment-ci de l'année, donc un peu comme l'an dernier, on va viser l'entourage. Je sais pas si vous vous rappelez du message l'an dernier, il y a un couple d'amis qui allait au lit, et là, il y en a un qui disait « Ah, mon ami a eu un accident, puis il y avait eu une fête avant », mais on constatait que l'ami en question avait dormi sur le divan, puis c'est la lampe qui était, il avait brisé une lampe, c'était ça l'accident. Alors, on démontrait que il fallait comme entourage agir, et on va revenir avec ce message-là encore une fois, le message d'intervenir avec les gens là qui ne sont pas en mesure de conduire.
Donc prévenir, donc être proactif.
Surtout avec l'approche du temps des fêtes, hein, évidemment.
Absolument. Et on va en reparler justement un petit peu plus tard, assurément, ensemble. Merci beaucoup, Mario.
Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de semaine.
Alors voilà, M. Mario Vaillancourt de la Société de l'assurance auto du Québec. On s'arrête à Auto 360 et on vous revient. Restez là.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Auto 360 avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco, Auto 360
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soudures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Et voilà, nous sommes de retour et on y va immédiatement en ligne avec Luc. Bonjour Luc.
Oui, bonjour, ça va bien?
Bonjour, oui, super.
Oui, j'aimerais savoir, j'ai un budget d'environ 15 à 20 000 $ pour Texine. J'aimerais me griller d'un pick-up crew cab. Qu'est-ce que vous me conseillez entre la Ram 1500 puis le F-150? On va tomber d'un véhicule qui est autour de 100 000 kilos déjà. Là. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vieillit le mieux.
Ça me dérange pas, mais quelle utilisation vous allez faire avec ça? Est-ce que vous achetez un véhicule pour tracter une roulotte, une fifouille ou quelque chose?
Ben en fait, moi, je veux sortir du créneau des minivans. J'ai présentement un Odyssey, mais là, j'ai une motoneige aussi, puis c'est pour ça que je me cherche une boîte. Je suis un peu tanné de toujours tracter, sortir le trailer pour aller en randonnée. Alors, puis j'ai une tente roulotte l'été, ça fait que c'est pas vraiment...
C'est pas un facteur.
Non.
OK. Vous cherchez pas l'économie de carburant parce que vous n'aurez pas vraiment d'économie. Avec le RAM, vous allez avoir le 5.7 EMI que j'aime beaucoup. Dans les camions, qu'on regarde les trois grands, là, environ des véhicules de 100 000 km, un F-150, vous allez devoir peut-être aller vers le 5 litres. Souvent, il y a beaucoup de véhicules à moteur 5 litres qui sont là. C'est un bon moteur, il n'y a pas de problème. Au niveau de la consommation d'essence, il est un petit peu plus avantageux que le EMI. Par contre, le EMI, vous allez avoir de la puissance peut-être en trop que vous n'avez pas nécessairement besoin. Je ne sais pas si vous pouvez en trouver un 3.6, mais ils sont très, très rares au niveau des rames dans ces eaux-là. Et j'aimerais ça que vous incluiez peut-être, puis vous ne fermiez pas la porte. Est-ce que vous n'aimez pas le look du Sierra? C'est pour ça que le GM, vous ne l'avez pas mis dans l'équation?
Oui, un peu ça. C'est
parce que souvent, ça... Hein? Parce qu'au niveau du 5000... 5300, c'est lui qui va vous donner la meilleure économie de carburant puis qui va pouvoir répondre, qui répondrait bien à vos besoins sur la route. Maintenant, ce qu'il faut faire, dans les deux, moi, j'ai pas vraiment de préférence. Si vous en trouvez un qui a un beau look, que vous l'aimez au niveau visuel, c'est l'entretien qui a été fait sur le camion et son utilisation. Bien important de faire vérifier la transmission et aussi les éléments de différentiel pour les deux véhicules pour savoir de quelle façon ils ont travaillé et s'ils ont été bien entretenus. Évidemment, les freins, la carrosserie, tout ça vient jouer, mais l'inspection sur un camion, parce que vous savez pas ce qui a été. La plupart des gens, ils n'ont pas travaillé avec le véhicule. Sauf qu'il y en a énormément qui travaillent avec leur véhicule. Et dans les, malheureusement, ceux qui ont une roulotte puis qui font, qui s'en vont dans les terrains de camping, c'est souvent en reculant, en avançant, on recule, on avance, on essaie de garer. Ça peut être une remorque aussi ou une roulotte. Et là, on endommage un peu la transmission. Donc, c'est tous ces effets-là que vous devez vérifier pour vous assurer que c'est correct. Tu es d'accord, Marc?
OK.
Totalement. C'est sûr que dans les deux cas, la précaution numéro un, ce sont les transmissions, parce que dans les deux cas, c'est la faiblesse de ces deux modèles-là. Évidemment, une inspection, tu l'as mentionné, là, on ne sait pas quel usage a été fait, mais dans ça particulièrement, les transmissions, surtout l'EMI, ça a été une de ses faiblesses. Alors, soyez prudents là-dessus et faites très attention.
Puis pour les inspecteurs, les transmissions, les concessionnaires sont capables de faire ça. Parce que moi, je sors d'un Odyssey, je sais quoi les problèmes de transition, de transmission.
Ben, oui, les concessionnaires vont le faire, ouais, sans problème. Okay. En théorie, ils connaissent bien les problèmes.
Oui, puis c'est souvent le niveau d'usure de l'huile aussi qui va leur donner ça. Merci d'avoir appelé, bien gentil. C'est Michel qui est en ligne.
Oui, bonjour, monsieur, ça va bien?
Oui, absolument.
Oui, moi j'ai présentement une Toyota Matrix 2004. Malheureusement, elle commence à montrer son âge un peu. Puis là, ben, je me chercherais un remplacement. Puis le facteur le plus important, c'est l'espace en arrière parce que je fais beaucoup d'activités à l'extérieur. Fait que c'est des vélos de montagne, escalade. Puis ça m'arrive même de dormir dans l'auto. Fait qu'auriez-vous quelque chose à me suggérer? Parce que justement, c'est ça, j'ai de la misère à trouver un véhicule qui matcherait toutes les mêmes caractéristiques que j'ai sur la Matrix.
Oui, vous avez raison. Honnêtement, il n'y a pas de véhicule actuellement. Écoutez, il y a toujours les VUS, là, les véhicules utilitaires sport, mais c'est ça qui est le problème. Parce que pour le reste, VUS, vous n'avez pas de berline qui va équivaloir à ça. Là.
Non, mais faut rester dans le sport utilitaire. Le Matrix, par contre, c'est pas le véhicule qui offre le plus d'espace à l'intérieur de la catégorie. C'est pas énorme. Alors, dans la plupart des sports utilitaires, vous allez trouver votre compte, d'après moi. Même un HRV, je pense qu'il y a plus d'espace lorsqu'on joue avec les bancs que vous pouvez en avoir dans votre Matrix. La nouvelle IM est un petit peu plus petite à cause de son toit. Ça peut vous causer des problèmes. Mais la plupart des sports utilitaires, est-ce que vous avez été voir des sports utilitaires qui sont sur le marché présentement?
Ben oui, mais en fait, justement, la HRV, ce que je déplorais un peu, c'est la qualité, dans le fond du produit, parce qu'en arrière, quand je veux loader tout mon équipement, ben, j'ai l'impression que j'allais percer le banc un peu, ben, juste un espèce de recouvrement en tissu, là. Puis j'ai l'impression que j'allais le percer, parce que c'est juste un petit plastique très mince, fait que c'est pour ça. Mais oui, j'avais vu effectivement la HRV. Fait que je voulais justement voir c'était quoi votre avis, ce que vous recommandiez à ce moment-là. Ben, je serais prêt à faire le soit peut-être un petit véhicule là, utilitaire.
Oui, ben la plupart des utilitaires sport vont vous rendre, d'après moi, davantage service. Et là, vous avez la panoplie. Là. Vous avez la panoplie des Tucson, des Escape, des. On a parlé du terrain tout à l'heure. Donc, il y en a énormément dans cette catégorie-là.
À la limite, vous avez aussi le Subaru Crosstrek qu'il ne faut pas oublier, qui a l'avantage d'avoir un rouage intégral intéressant, qui a un espace, parce que si ce que vous me dites, c'est que vous baissez les banquettes de toute façon. Dans le cas du Crosstrek, ça pourrait être un bon compromis entre l'utilitaire standard et ce que vous connaissez déjà. Je pense que ça pourrait être une option intéressante.
Pour un excellent rapport qualité-prix, vous auriez une traction intégrale en prime. Alors ça, c'est vraiment un choix très intéressant et ingénieux de mon ami Marc. Merci beaucoup d'avoir appelé. Catherine est là. Bonjour, Catherine.
Oui, bonjour. Ça va bien?
Bonjour, oui.
Oui, je vous appelle. J'ai une question. Dans le fond, moi, je fais environ 50 000 km par année avec ma voiture. Puis, elle commence à montrer son âge. J'ai un Subaru Legacy 2007 que j'avais acheté à l'usager il n'y a pas tellement longtemps, qui arrive justement à 280 000 km. J'ai l'intention de le garder encore un certain temps, mais je commence à regarder pour un remplacement éventuel. Puis je voulais savoir, dans le fond, qu'est-ce que vous pourriez me recommander? Parce que je fais, comme je vous dis, 50 000 km par année sur des routes de campagne. Donc, la transmission, on prend quand même un bon coup. la suspension, excusez-moi, prend un bon coup, puis j'ai besoin d'une voiture avec la traction intégrale. J'hésitais, je pensais peut-être à un Forester, mais on m'a dit de faire attention parce que certaines années, il y a eu des problématiques avec les moteurs 2.5 ou les moteurs avec turbo.
C'est le plus récent possible que vous devez aller dans le Subaru. C'est là que vous allez être gagnante. Et effectivement, c'est probablement le véhicule qui vous rendrait le plus service. Moi, si j'étais vous, c'est sûr que la traction intégrale est importante, mais dans les véhicules hybrides chez Toyota, c'est ce que vous auriez le meilleur rendement. Une Camry ou encore une Prius. Merci Marc, merci à tout le monde. Merci Catherine
merci,
d'avoir appelé
semaine,
malheureusement.
Bonsoir.
C'est déjà tout. On n'a plus le temps. On se reparle la semaine prochaine. Au revoir.
Soyez là samedi prochain pour une autre édition d'Auto 360 avec Daniel Boudreau.